partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Dans cette deuxième émission sur le fait français aux États-Unis, je vais évoquer aujourd'hui les réfugiés venus de France qui se sont installés aux États-Unis et notamment à New York en 1940. Je conseille à tous mes auditeurs de se procurer un livre très important qui est le livre de Ronald Greig qui s'appelle « Nos cousins d'Amérique » et publié, je pense, chez Payot. J'ai évidemment utilisé beaucoup de renseignements donnés par Ronald Greig pour vous introduire à cette réalité du fait français pendant la guerre à partir de 1940. Alors, l'affluence des réfugiés qui arrivent à New York à partir du 3 juillet 1940 rehausse l'importance de la communauté française des États-Unis qui devient l'une des plus importantes de l'étranger. 20 000 environ à l'époque. Ces nouveaux immigrants sont loin d'être des millionnaires, certains le sont, encore qu'ils aient eu assez de ressources pour payer le coûteux voyage jusqu'en Amérique. En fait, ces individus sont suspects aux autorités américaines, leur pays a connu le Front populaire et il a soutenu les républicains espagnols. Ces idées n'encouragent pas la bienveillance de Washington qui craint l'infiltration communiste plus encore que celle des agents nazis. Certains réfugiés attendent des semaines durant à Lisbonne, donc au Portugal, avant de pouvoir embarquer. La traversée est coûteuse de 300 à 400 dollars. Mais tous ces immigrants essaient de court-circuiter la politique du département d'État favorable à Vichy en s'adressant directement à l'opinion publique américaine. Intellectuels et savants bénéficient en revanche de l'aide de la fondation Rockefeller qui les a fait réclamer au préalable par des universités américaines. À partir de 1943, lorsque sera mieux connue l'existence des camps de la mort, l'Amérique favorisera l'accueil des Juifs. La sélection des immigrants passe par le filtre d'une série de commissions. Les quotas d'immigration pour la France ne seront jamais atteints pendant la durée de la guerre. La plupart ne recevront que des visas de visiteurs. Les nouveaux arrivants sont politiquement très divisés. Et ça, c'est intéressant. Indépendants, pétinistes, gaullistes ou partagés entre les innombrables variantes de la résistance, semblables à celles que connaît la France, ils se disputent sans cesse mais se soutiennent. Au-delà de leur division, tous espèrent retourner un jour dans leur patrie. Ils connaissent l'isolement, l'incertitude propre à la guerre et leurs conditions d'exilés, mais ils refusent l'assimilation. Volontairement, ils ne s'intègrent pas ou très peu à la société américaine. Des hommes de cinéma arrivent parmi les premiers. Charles Boyer, une des figures les plus glamoureuses, si j'ose dire, du cinéma français. Julien Duvivier, un artisan du cinéma français tout à fait remarquable, débarque le 15 juillet 1940, suivi quelques jours plus tard par René Clair, le merveilleux René Clair, auteur entre autres de « Sous les toits de Paris », Michel Morgan, avec ses yeux exceptionnels, et Jean Gabin, bien entendu un monstre du cinéma français, ainsi que l'acteur du très bon acteur Jean Murat. Ils seront invités de même que Victor Francen a joué dans des films anti-nazis. Julien Duvivier, pour citer ce réalisateur français, réussit à produire « Tales of Manhattan », donc « Les talents de Manhattan », où s'illustre entre autres Charles Boyer. René Clair, de son côté, réalise « J'ai épousé une sorcière »,« Sartir du mariage américain ». Ces films américains ne sont pas les meilleurs. Parmi les meilleurs, il faut le reconnaître. Et aussi, un autre film dont le titre est en anglais, évidemment, « Ghost Goes West », où il exprime son goût du surnaturel. Jean Renoir, merveilleux réalisateur français, un des plus célèbres, songe à s'établir définitivement à Hollywood. D'ailleurs, il mourra plus tard à Hollywood, après être revenu en France un moment. Louis Verneuil et sa femme Vera vont en Californie. À l'exception de Maurice de Cobra, aucun écrivain, Maurice de Cobra qui est un excellent romancier, aucun écrivain français ne se sent à l'aise dans le luxe de Hollywood. Parmi les politiques, Il n'y a pas seulement que des hommes de culture, que des cinéastes. Parmi les politiques apparaissent Pierre Cotte, Mendès France. En septembre 1940, arrive par Lisbonne Jacques Stern, ancien ministre de la Marine marchande. Il a eu la prévoyance et les moyens, il n'est pas le seul, croyez-le, de déposer aux États-Unis une solide fortune qui lui permet d'attendre sans inquiétude à la fin, la fin des hostilités. Il se plaît tant dans le pays que, déçu par l'évolution politique et sociale de la France après la libération, il demandera sa naturalisation américaine. Mais la personnalité politique la plus importante est un tourangeau, Camille Chautemps, qui, après la débâcle, trouve asile à New York en novembre 1940. Radical socialiste, membre du Grand Orient de France, il a été envoyé en mission par Pétain. Sa femme assure la subsistance du ménage en donnant des concerts de piano sous le nom de Juliette Durand-Texte. En fait de mission, Camille Chautemps s'efforce d'empêcher Vichy de collaborer. Il envoie au maréchal des télégrammes sur les erreurs de ses subordonnés. Il le met en garde contre les conséquences qu'en tireront les États-Unis. Son courrier est censuré par un agent de l'ambassade de France. Et après une lettre de critique, puis un télégramme de protestation contre les persécutions des francs-maçons, sa mission lui est retirée en août 1941. Mais oublions un peu ces politiques, si vous voulez, et pensons aux gens, personnes de culture qui se retrouvent aussi à New York et rejoignent bien sûr les cinéastes et bien d'autres. Nous avons, en juin 1941, quelques semaines avant la tragédie de Pearl Harbor, qui va lancer les États-Unis dans sa guerre contre le Japon, bien entendu, André Breton et sa famille débarquent à New York avec le peintre surréaliste André Masson. Les temps sont difficiles. Breton accepte à contre-cœur un emploi de speaker dans les émissions de La Voix de l'Amérique. Dans son appartement exigu ou chez la richissime Peggy Guggenheim, le pape du surréalisme, qui est toujours de mauvaise humeur, il ne parle pas un mot d'anglais, retrouve ses amis ou ses invités. Ceux-ci se nomment Yves Tanguy, Zadkine, Mondrian, Chagall, Max Ernst, le sculpteur Alexandre Calder, le philosophe Jean Wall, les journalistes Pierre et Hélène Lazareff, l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Il faut savoir tout de même que Antoine de Saint-Exupéry écrira « Le Petit Prince » à New York. Donc le succès, un des plus grands succès mondial en langue française, « Le Petit Prince » sera créé à New York, il faut le savoir. Avec des disciples américains, Breton fonde la revue surréaliste VVV. Le premier numéro paraît en juin 1942 avec une contribution de Max Ernst. Marcel Duchamp, arrivé un peu plus tard, compose pour le deuxième numéro une couverture qui fait scandale. Les surréalistes en exil organiseront en pleine mobilisation du 14 octobre au 7 novembre 1942 une exposition inoubliable. Une pléthore de peintres vivent à New York. Jean Hélion, Moïse Kissling et encore Fernand Léger, un des tout premiers arrivés en novembre 1940. Il donnera des cours d'été au collège de Mills, à Oakland, en Californie, en compagnie d'André Monroy et de Darius Milhaud, qui plus tard y enseignera en même temps qu'au Conservatoire de Paris. On retrouve à New York toutes les grandes galeries parisiennes. Et comment oublier les écrivains F. Curie, Julien Green, André Monroy, les universitaires, alors des personnages de premier plan, Jacques Maritain, Claude Lévi-Strauss, Jean Perrin, Henri Laugier, personnage très connu pour ses travaux au musée de l'Homme, Louis Rapkin, les avocats comme Henri Torres, promenant son embonpoint, je parle d'Henri Torres, dans la 5e avenue, et Suzanne Blum qui rédigera ses souvenirs. N'oublions pas, ce tableau ne serait pas complet sans la mention des journalistes. Il y a quand même aussi de bons journalistes français qui se sont réfugiés à New York. Ils viennent de tous les horizons. Dans les rues de New York circulent les anciens directeurs en chef du Matin, de Paris Soir, de la NRF, les anciens collaborateurs des Nouvelles Littéraires, d'Esprit, du Figaro, Geneviève Tabouy, la Cassandre française, l'une des plus importantes adversaires de Vichy, à laquelle l'ambassadeur de France est obligé de concéder qu'elle a du talent. Imaginez. Enfin, on trouve à côté de ce personnage Geneviève Tabouy, on trouve un personnage, un des journalistes les plus connus, Pierre Lazareff, bien sûr, et enfin, à côté d'eux, des industriels ou des commerçants vont donner leurs mesures, comme Paul Dubonnet, Georges Bivon, et bien entendu, vous avez le premier fond d'une distillerie, Dubonnet, le second monte sa propre usine de chocolat, puis ouvre des magasins dans plusieurs villes américaines. Il a déjà créé à New York une chocolaterie, confiserie fine, qui s'appelle, je cite, « Rosemary de Paris ». C'est un joli nom. Avec l'appui des autorités américaines, la Compagnie Générale Transatlantique constitue une nouvelle société, la French Line Incorporated, qui continuera de naviguer avec son personnel propre et sous pavillon français. Dans un domaine tout à fait classique, aujourd'hui évidemment, ce domaine s'est beaucoup développé, les Français réussissent bien la restauration. 42 restaurants se créent pendant la seule durée de la guerre à New York. Parmi les plus en vogue, le Pavillon, fondé en 1941 par l'ancien directeur du Café de Paris. Une table s'y réserve évidemment des jours à l'avance. Maintenant, vous avez un autre domaine qui est tout à fait intéressant, c'est ce que l'on appelle la bataille du livre français. Grâce à cette profusion d'intellectuels, se créent les éditions de la maison française au Rockefeller Center de New York. Un tel centre s'avère indispensable du fait que par suite du blocus et de la guerre maritime, les livres français ne parviennent plus aux États-Unis. Dirigé par M. Crespin et André Bonroy, il connaîtra un grand éclat. 120 livres sortiront de 1940 à 1945 avec des auteurs tels que Raymond Aron, ce n'est pas rien, F. Curie, Julien Green, Jacques Maritain, Jules Romain et encore Saint-Exupéry qui écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un instant, Le Petit Prince à New York. Saint-Exupéry est arrivé par l'Afrique du Nord le jour de l'an 1941. Écœuré par ses compatriotes qui s'entre-déchirent. Il prend ses distances, il écrit « Pilote de guerre », un livre important. La presse gaulliste le traite d'ami de Vichy et l'attaque. Il publie le 15 novembre 1942 dans le New York Times une lettre ouverte où il invite les Français à l'Union sacrée. Il déclenche la tempête. Le jour même, il demandera à être affecté à une escadrille de combat et comme on le sait, il mourra au-dessus de la Provence. Son avion s'abîmera dans l'eau. Jules Romain, dont les succès suscitent la jalousie, part pour le Mexique en 1942. Il ne reviendra à New York qu'en 1945. Un autre personnage extrêmement important vivra à New York pendant cette période, c'est le vieux Maurice Maeterlinck. Il a 78 ans, a tout perdu, il débarque d'un navire norvégien un matin de juillet 1940. Il publiera un drame en un acte, « L'enfant qui ne veut pas naître », qui sera représenté avec succès par le Cercle français de l'Université de New York avec la comtesse Maeterlinck dans le premier rôle. D'autres, comme l'Américain Brentanos, ouvrent un service concurrent d'édition du livre français tandis que les éditeurs Didier publient Pierre Mendès France et Édouard Herriot. Toutes ces éditions cesseront leurs activités après la Libération. Alors, il va sans dire que la bagarre s'installe entre vichistes et gaullistes et les autres. L'association France Forever, donc France pour toujours, émet sur les ondes vers la France et vers ses colonies d'Afrique et d'Asie des programmes quotidiens et hebdomadaires. Une autre émission intitulée « La Voix de l'Amérique » parle aux Français, comprend parmi ses speakers André Breton, Aux Enfants, Claude Lévi-Strauss, ce n'est pas rien, Pierre Baudet et Pierre Lazareff. Ces activités se complètent par un journal français, Pour la Victoire, dont le rayonnement sera considérable. Cette publication est lue et commentée dans plus de 800 collèges et universités. À la fin de la guerre, elle fusionnera avec France-Amérique. Mais ne l'oublions pas, entre Français, la guerre s'installe. Les Français sont désormais des frères ennemis. Le 11 mai 1941, au temple huguenot de New York, les fidèles se séparent en deux blocs. Au premier rang, à gauche, l'ambassadeur de Vichy. De l'autre côté, M. Garot d'Amballe, qui représente l'association France Forever. Pour une querelle de préséance, il manque d'en venir aux mains dans le temple du Seigneur. Ce n'est pas très joli. Chaque camp insulte les Français qui ne se sont pas ralliés à son drapeau. D'où une troisième catégorie de Français qui n'adhère pas à Vichy, mais désapprouve les méthodes du gaullisme. Il en est ainsi du groupe de journalistes de l'hebdomadaire Pour la Victoire. C'est le cas également de l'ancien président du Conseil, Camille Chautemps, qui en avril 1942 prend parti contre Laval, présente son adhésion à la France Forever, mais celle-ci la rejette. Ancien dirigeant de la Troisième République, il est susceptible de former un gouvernement en exil. Aussi les loges maçonniques, fortement noyautées par les gaullistes, lui refusent-elles leur aide politique. La situation du général Robert Audic est encore plus tragique. Il est à la fois condamné à mort par Vichy et interdit de séjour par De Gaulle. Il n'a pas beaucoup de choix. Mais ne l'oublions pas, durant cette période et au-delà des luttes intestines, de nombreux Français cherchent à, si vous voulez, progresser dans le domaine intellectuel. Et c'est la création, notamment, le 14 février 1941, de l'École libre des hautes études. Donc, cette ouverture officielle a lieu avec la participation de milliers d'amis français et américains. Et elle sera, cette école, donc cette école libre des hautes études, affiliée pendant toute la guerre à la New School for Social Research, dirigée par le docteur Alvin Johnson. Et elle recevra en 1947 une charte officielle des régents de l'État de New York. Donc, la guerre avance, et pendant que la guerre avance, à New York, eh bien, successivement, présidée par Henri Faucillon, professeur au Collège de France, Jacques Maritain, professeur à l'Institut catholique de Paris et à la Columbia Université, et par Henri Grégoire, historien à l'Université de Bruxelles, elle groupe cette école de libre des hautes études, des facultés de droit, de sciences et de lettres. Cette dernière comprend même un institut de philologie et d'histoire orientale et slave. Au début, l'école ne donne qu'une quarantaine de conférences et de leçons. Elle a 19 professeurs pour 326 étudiants. Donc, vous voyez, nous sommes en 1941. Puis les chiffres vont rapidement progresser. 28 professeurs un mois plus tard et en mai, 928 étudiants. Les effectifs s'enfleront jusqu'à 98 enseignants, soit 48 en lettres, 21 en droit et 29 dans les sciences. Durant la guerre, l'école délivrera peu de diplômes car ils ne sont pas reconnus par les Américains et elle attire surtout des adultes. Elle n'en constitue pas moins un important lien culturel de la communauté de New York. Alors, la fin de Vichy approche et bien entendu, la libération va bien sûr venir et la fin des hostilités, c'est pour un peu conclure cette émission sur les Français réfugiés aux États-Unis à New York pendant la guerre. La fin des hostilités suscitera une nouvelle immigration française, celle des jeunes filles mariées à des J.I. Et elles sont plus de 6500 d'entre elles à suivre le chemin des États-Unis. En revanche, il n'y a aucun rapport avec le fait précédent. Les Français pourront enfin rapatrier les capitaux que le gouvernement américain avait séquestrés. Ceux-ci, qui appartiennent surtout à des particuliers, s'élèvent, et le chiffre est quand même considérable, au 30 juin 1947, à la coquette somme d'$1,5 milliard. La France épuisée peut se relever. Alors, voilà pour cette émission. Mais alors, je veux, avant de la terminer, vous donner tout de même quelques éléments de bibliographie. Alors, je crois que pour nos auditeurs, 5 livres peut-être me semblent importants. Je pense à un livre qui est publié au Centre de recherche d'histoire nord-américaine de l'Université de Paris 1, qui s'intitule « L'émigration française, étude de cas, Algérie, Canada, États-Unis ». Donc évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est le Canada et les États-Unis. Paris, publication de la Sorbonne en 1985. Je pense à un deuxième livre du professeur Claude Follen, « L'Amérique anglo-saxonne de 1815 à nos jours », Paris PUF, 1969. Je pense aussi à un excellent universitaire québécois qui s'appelle Réginald Hamel, La Louisiane créole littéraire, politique et sociale, 1762-1900, publié avec la collaboration du Conseil de la langue française, Ottawa, édition Leméac, 1984. Et encore 2 livres, celui de Pierre Magri, Découverte et établissement des Français dans l'Ouest et dans le Sud de l'Amérique septentrionale, 1614-1754, donc vous voyez, ça date déjà d'un bon moment. Paris, 1879-1888, en 6 volumes. Et le dernier livre, et pas le moindre, reconnaissons-le, c'est celui d'un très grand universitaire que j'ai bien connu, qui s'appelle Auguste Viat, et qui a écrit sa fabuleuse histoire littéraire de l'Amérique française, des origines à 1950, Québec 1954, et ça a été d'ailleurs conjointement publié par les Presses Université Laval et par les Presses Universitaires de France. C'est un livre tout à fait remarquable par un des précurseurs, un des pionniers de la francophonie mondiale. Voilà, chers auditeurs, vous pouvez retrouver ces émissions, évidemment, dans notre médiathèque.